Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous commencerons notre Tour de France des bonnes nouvelles en Saône-et-Loire, précisément au Creusot, qui va accueillir la première usine de Jimmy. Jimmy va y fabriquer des SMR, ces réacteurs nucléaires de petite taille qui vont compter de plus en plus dans la production d'énergie décarbonée. On en parle plus en détail dans quelques instants avec notamment l'interview de David Marty, le président de la communauté urbaine Creusot-Montceau. Direction ensuite la région de Nice, siège de l'entreprise Inalve qui produit des micro-algues, un marché très porteur. Inalve vient de lever 4,7 millions d'euros pour accélérer son déploiement industriel. Eh bien, on va en parler avec Véronique Raoul, c'est la présidente d'Inalve. Enfin, nous reviendrons sur le sujet des chaussures made in France, alors que 98% de nos achats proviennent de l'étranger. Depuis longtemps, Philippe Zorzetto se bat pour développer la fabrication tricolore. Il a lancé récemment une campagne de précommande pour des sandales et des espadrilles produites bien sûr au Pays Basque. Tous les détails dans quelques minutes avec Philippe Zorzetto. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir sur une actualité de ces derniers jours, ce super IRM développé par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, un appareil qui à terme devrait permettre des avancées technologiques et médicales très importantes, et c'est donc une première mondiale développée ici en France. Les explications de Jean-Baptiste Huette.
Observer le cerveau humain avec une précision et une résolution inédites. C'est ce que promet ISE, un des scanners IRM les plus puissants du monde, capable de délivrer un champ magnétique d'une intensité de 11,7 Tesla contre 3 pour un scanner IRM classique. Cette installation va permettre aux scientifiques de redécouvrir le cerveau humain, d'observer les neurones en action, texture, contraste, veines. Sa résolution inédite devrait contribuer à faire des sauts technologiques dans la maladie d'Alzheimer, celle de Parkinson, la sclérose en plaques ou encore dans la psychiatrie. Au cœur de l'installation, un gigantesque aimant de 135 tonnes et de 5 mètres de diamètre, fabriqué par Alstom, un aimant supraconducteur refroidi à moins 271 degrés Celsius. Il a même fallu construire le bâtiment autour. Plus de 20 ans de travail pour les équipes du CEA et 70 millions d'euros ont été nécessaires pour réaliser cette prouesse scientifique. Un scanner qui, pour l'instant, est un outil expérimental. On ne verra pas ISO tout de suite dans nos hôpitaux. De nombreuses années seront en effet nécessaires avant de parvenir à miniaturiser une telle installation.
Et quelques jours après cette annonce, eh bien François Sorel dans Tech & Co a reçu Anne-Isabelle Etienvre, c'est la directrice de la recherche fondamentale au CEA. Elle est revenue sur les prouesses technologiques de cet IRM et sur les perspectives médicales que l'on peut espérer. On l'écoute.
En 4 minutes, on arrive à avoir des précisions sur le cerveau qui sont inégalées avec un temps d'acquisition aussi court. Et donc c'est extrêmement prometteur puisque ça permet d'imaginer, de pouvoir étudier le cerveau, son métabolisme, son fonctionnement pour l'apprentissage, mais aussi poser des diagnostics précoces et mieux comprendre un certain nombre de maladies extrêmement impactantes pour la société.
Médicalement, c'est une vraie révolution qui arrive là.
Alors, on est vraiment à la fois, c'est un aboutissement aujourd'hui, puisque donc on a la certitude que notre appareil fonctionne aussi bien qu'on l'avait rêvé il y a un certain temps. Mais c'est aussi le début de quelque chose, puisque maintenant commence vraiment la recherche en neurosciences avec cet appareil dont on sait qu'il atteint les caractéristiques que l'on avait rêvées. Et donc, on va pouvoir maintenant vraiment démarrer la recherche avec l'ensemble de nos partenaires académiques, mais également dans le milieu hospitalier, pour vraiment mieux comprendre le cerveau sous toutes ses formes.
Voilà donc Anne-Isabelle Etienvre, directrice de la recherche fondamentale au CEA. Dans cette émission, vous le savez, on aime mettre régulièrement en avant l'utilité du CEA et notamment de sa branche tournée vers l'industrie, le CEA Leti, dans la recherche. Et in fine, tout cela débouche sur des innovations qui irriguent le monde de l'entreprise. Bref, le partenariat public-privé, ça fonctionne. Et ce soutien justement du public au privé, on le retrouve dans le projet annoncé récemment par l'entreprise Jimmy en Saône-et-Loire. Un projet dont on devait parler en détail dans cette émission avec le PDG et cofondateur de l'entreprise. entreprises, Antoine Guyot. Malheureusement, Antoine Guyot nous a fait faux bond, ça peut arriver. J'ai donc demandé à Annalisa Capellini, qui chaque semaine prépare l'émission à mes côtés, de venir nous parler de ce projet de Jimmy. Et juste après, eh bien, on écoutera la réaction du maire du Creusot, David Marty, puisque sa ville et la communauté de communes sont très impliquées dans ce projet. Alors ce projet, Annalisa, je vous donne la parole dans quelques instants, mais tout d'abord, je rappelle le cœur d'activité de Jimmy, c'est la production de chaleur décarbonée pour les industriels, notamment via les SMR, ces fameux Small Modular Reactors, petits réacteurs modulaires, en quelque sorte des mini-réacteurs nucléaires très petits, chacun fait environ 20 mètres cubes. Cette technologie est donc au point. L'objectif de Jimmy est d'être la première entreprise à livrer un SMR en France. Et pour cela, eh bien, Annalisa, Jimmy a cherché un site d'implantation et c'est un site en Saône-et-Loire qui a été retenu.
Et oui, exactement. Et plus précisément, il s'agit d'un site dans le parc d'activité de Coriolis, sur la commune de Torcy, qui se trouve juste en face de la gare TGV Creusot-Monceau. Alors, il s'agit d'un site de 90 hectares qui accueille de nombreuses industries, mais aussi des entreprises du tertiaire et des activités logistiques, notamment celle, par exemple, du distributeur allemand Lidl. Eh bien, c'est ici que Jimmy va construire 3 bâtiments d'ici 2028 pour une superficie totale d'environ 27 000 mètres carrés.
Et combien de réacteurs SMR vont sortir de ce nouveau site en Saône-et-Loire ?
Eh bien, l'objectif affiché à terme est celui de 20 à 30 SMR par an. Le premier devrait être livré en 2026 à une entreprise de l'agroalimentaire. Évidemment, il y a des retombées sur l'emploi. Il y a 300 emplois qui vont être créés d'ici 2028, dont une centaine déjà dès l'année prochaine, en plus des 70 salariés qui, eux, restent au siège parisien de Jimmy.
Et d'autant plus, Annalisa, que pour ces salariés, eh bien, la ligne Paris-Le Creusot, c'est très facile en TGV.
Et oui, je vous le disais tout à l'heure, le futur site sera juste en face de la gare TGV Creusot-Monceau, donc c'est à 1h20 seulement de Paris. Il y a plusieurs grandes villes à proximité, hein, au-delà de Paris. Le site est à seulement 40 minutes de Lyon et à une petite heure environ de Dijon. Donc voilà, un site très très facile d'accès. Évidemment, la position géographique a pesé, hein, dans le choix de Jimmy de s'installer à Torcy, mais pas seulement, attention, il y a aussi toutes les facilités qui sont accordées par la communauté urbaine Creusot-Monceau, en particulier la mise à disposition d'un terrain directement clé en main. C'est en tout cas ce que recherchent de plus en plus les industriels qui veulent s'installer en région.
Merci Annalisa Capellini. Et justement, nous avons interrogé David Marty, qui est le maire du Creusot et le président de la communauté urbaine Creusot-Monceau, sur les facilités qui ont été accordées à Jimmy et sur les retombées qu'il attend de ce projet. Écoutez ses réponses. David Marty était interrogé par Léa Arrojo.
C'est 100 millions d'investissements, c'est plus de 300 emplois directs et on sait que dans l'industrie, pour un emploi, il y a 2,5 emplois qui sont induits. Donc vous imaginez l'impact d'une implantation comme celle-ci, rien qu'en termes d'investissement, c'est-à-dire pour les entreprises qui vont travailler d'abord sur la construction de l'usine, sur les sous-traitants et puis sur toute l'économie locale. Donc ça a un impact considérable.
Quelles conditions ont été accordées à l'usine Jimmy ?
Jimmy est subventionné dans le cadre du plan de l'État, hein, France 2030, à hauteur de 30 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable. La communauté urbaine fait un accompagnement complet en fait quand une industrie vient s'installer, parce qu'on parle bien d'industrie du futur. Et donc ça va bien entendu de la mise à disposition du foncier, de la vente du foncier, jusqu'à l'accompagnement en termes de politique RSE. Tout l'accompagnement dont la société a besoin, la communauté urbaine accompagne et fait ce travail. Donc là, on a besoin aussi de l'État, pas simplement sur les subventions, mais aussi pour qu'il soit facilitateur. Nous avons le foncier, nous avons tout pour que ça aille vite. Jimmy veut aller vite, parce que Jimmy est une start-up qui a de l'ambition. Donc, le challenge maintenant, c'est de rester dans les délais pour la construction de ces usines sur Coriolis, là où est décidée l'implantation. Mais moi, j'ai bon espoir, on va y travailler aussi collectivement.
Quelle place pour l'industrie dans le développement des territoires ?
On a 30 ans d'avance au niveau du développement industriel, puisque même plus de 30 ans. Nous avons su, depuis déjà pas mal d'années, créer un écosystème favorable à l'implantation des industries. À la fois sur l'environnement, à la fois sur tout ce qui touche à l'enseignement supérieur, recherche, développement et meilleure situation possible pour la production. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de notre territoire comme étant la Silicon Valley de l'industrie du futur 4.0.
Voilà donc un très joli rebond pour cette région qui va vers le 4.0, comme le disait le maire du Creusot. Alors qu'il y a quelques décennies, eh bien, on parlait du Creusot pour ses mines de charbon essentiellement. Aujourd'hui, donc, outre Jimmy, plusieurs entreprises de la filière nucléaire ont fait le choix de ce secteur du Creusot, notamment Framatome, Industil ou encore Thermodyne. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, eh bien, sachez, le maire le rappelait au début de son intervention, que le projet de Jimmy, c'est un investissement total d'environ 100 millions d'euros, dont 32 millions apportés par l'État dans le cadre du plan France 2030. Et pour compléter son financement, Jimmy est en train de boucler une levée de fonds après deux précédentes levées d'un total de 19 millions d'euros. C'était en 2022. Et je précise qu'on sera ravis de recevoir l'un des deux cofondateurs de Jimmy en chair et en os très bientôt pour nous reparler de ce projet donc en Saône-et-Loire. On va complètement changer de secteur d'activité et de région avec Inalve, dont la présidente Véronique Raoul est en plateau avec nous. Bonjour Véronique.
Bonjour, enchantée.
On est dans le domaine de la microalgue. Alors donc on va parler de ce que vous faites, de la région de Nice. Juste un mot de rebond par rapport à ce que l'on vient d'entendre. Je crois que le problème du foncier pour les industriels qui cherchent à se développer, il est crucial et vous êtes en train de le vivre, vous, dans la région sud-est.
On est en plein dedans. En fait, on a des clients, mais notre enjeu maintenant, c'est de trouver un nouveau terrain pour nous agrandir, pour répondre aux besoins des clients. Et c'est vrai que trouver un terrain dans le sud de la France, qui est étroit entre la montagne et la mer, c'est un enjeu, c'est un véritable défi. Donc, si quelqu'un a un terrain... Un demi-hectare, ça nous suffit.
Dans les Alpes-Maritimes.
Dans les Alpes-Maritimes, près de Nice, on dirait à 45 minutes de Nice.
Ah bien, voilà. Alors donc, on en revient à votre activité. Inalve crée donc dans la région de Nice en 2016. On est dans le domaine de la microalgue, je le disais. Rappelez-nous le cœur d'activité de votre entreprise.
Oui, alors en fait, Inalve, c'est une start-up à impact. Et notamment, les microalgues, elles sont vues comme un potentiel énorme, un océan de solutions pour l'impact. Puisqu'en fait, invisibles à l'œil nu, déjà, elles sont à soi de 50% de l'oxygène qu'on a autour de nous. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire. Et elles sont vues comme des solutions à l'alimentation, à la santé, les biocarburants, les bioplastiques. Mais l'enjeu, c'est de réussir à les produire de manière industrielle, c'est-à-dire des grandes quantités, toute l'année, à prix compétitif et avec une qualité continue. Et donc, c'est là qu'on intervient, nous, Inalve, avec une rupture technologique qui permet de produire beaucoup d'eau, beaucoup de microalgues dans très peu d'eau, en maximisant l'accès à la lumière et non pas l'inverse. Souvent, c'est pas beaucoup de microalgues dans beaucoup d'eau.
Et c'est ainsi, le biofilm rotatif qui
c'est
ça. Permet ça.
C'est ce biofilm qu'on voit parfois à l'image, images, en fait, voilà. Où en fait, on mime la nature, où certaines microalgues s'associent, en fait, pour former un biofilm et résister au courant. Et en fait, en produisant de cette manière, eh ben, on a plusieurs impacts. D'une part, on préserve l'eau, qui est une ressource devenue rare, puisque c'est moins 80% d'eau. On réduit de 60% l'impact climatique. On n'est absolument pas en concurrence avec les terres arables. Donc, en fait, on permet d'être les seuls au monde aujourd'hui à produire des microalgues vivantes et à les commercialiser sous forme concentrée surtout. Tout le monde peut faire des microalgues vivantes, mais on est les seuls à pouvoir les commercialiser sous forme vivante et extrêmement riche en ingrédients santé.
Moins d'eau, vous le disiez, entre moins 70 et moins 80%, moins d'énergie aussi dans votre style et mode de production.
Mais oui, parce qu'en fait, comme on favorise, comme on le voit sur les images, l'accès à la lumière en permanence, en fait, on n'a pas besoin d'éclairer, on n'a pas besoin d'agiter l'eau. Et à la fin, comme on récolte une biomasse qui est directement, enfin des microalgues directement très concentrées, on n'a pas besoin d'enlever l'eau, qui est responsable en général de 30% de la consommation énergétique. Donc en fait, d'où cet impact réduit de 60% sur le climat.
Vous avez parlé de la commercialisation, donc à qui commercialisez-vous ces microalgues? Qui sont vos marchés cibles?
Eh bien en fait, notre marché cible, c'est l'aquaculture. Moi, l'alimentation, pour moi, c'est un enjeu clé. En fait, on ne peut pas étudier, on ne peut pas travailler, on ne peut pas s'habiller si déjà on n'est pas nourri correctement. Et aujourd'hui, sur 8 milliards d'êtres humains, il n'y en a même pas 5 qui mangent à leur faim et demain, on sera 10 milliards. Et l'aquaculture, c'est un secteur clé pour y répondre. Mais du coup, il faut aussi la rendre plus performante, c'est-à-dire plus productive, mais aussi plus responsable, qu'elle n'abîme pas elle-même et qu'elle soit de qualité. Et en fait, son premier maillon, ce sont les écloseries. Donc, on va dire, c'est les nurseries des océans. C'est transformer la larve en une petite larve, en un petit poisson, une crevette. Et en fait, bah, les producteurs, ils trouvent pas la nourriture adaptée. Ils ont des forts taux de mortalité. Et c'est quoi la nourriture naturelle de ces larves dans les océans? Eh bien, ce sont les microalgues vivantes qu'on est les seuls à pouvoir commercialiser.
Donc, c'est de nourrir les poissons, les crevettes, les coquillages, etc., qui sont produits en aquaculture. Oui. Et on rappelle que c'est un thème très dans l'air du temps. Mmh. Il a été mis au cœur d'un projet de loi sur les enjeux de souveraineté alimentaire parce que en France, on a quelques parcs d'aquaculture, mais ils sont loin, très très loin, de suffire à nos besoins alimentaires, ne serait-ce qu'en France d'ailleurs.
Ah mais tout à fait, en fait, c'est vrai que vous me donnez mes clients. Aujourd'hui, nos clients je dirais malheureusement, en fait, ils sont un peu en France, beaucoup en Europe, et le gros potentiel, en fait, il est ailleurs, en Asie du Sud-Est et en Équateur. Mais l'un de nos enjeux, c'est de permettre, en fait, de réintroduire aussi en France une aquaculture locale pour, du coup, réduire, en fait, les trajets et l'impact de l'aquaculture, justement, sur le climat, sur un certain nombre d'enjeux.
Dans le précédent sujet sur l'entreprise Jimmy, très soutenu par le Creusot et la communauté urbaine, est-ce que vous aussi, vous êtes soutenu par les collectivités territoriales? Vous êtes donc, on l'a dit, près de Nice. Est-ce que la région sud, est-ce que le département, qui vous aide dans votre parcours?
Alors, je dirais que historiquement, déjà, c'est la métropole de Nice qui nous accueille, en fait, depuis 2016. Voilà, où on est encore aujourd'hui, où on espère rester dans les semaines à venir. C'est bien sûr la région sud qui a été tout de suite à notre capitale dès 2018, pardon. C'est régulièrement des fonds aussi. Il y a eu la crise du Covid, on le sait tous. En fait, on est des soutiens de la région. Donc oui, la métropole de Nice et la région sont des acteurs clés et essentiels au développement industriel.
Les levées de fonds, donc il y a eu 1,6 million en 2019, c'était avant votre arrivée à la tête de l'entreprise. Là, vous venez de boucler une nouvelle levée, 4,7 millions. Qu'allez-vous faire de cet argent qui vient de tomber?
Alors déjà, je dois dire qu'on est extrêmement fiers de cette levée en cette période difficile et d'avoir réussi. Et ça, c'est grâce justement à la fois à la rupture technologique qui est très innovante et puis à la satisfaction de nos clients qui disent qu'une fois qu'on a essayé le produit final, on ne peut pas changer. Et donc d'avoir fait rentrer à la fois la Banque publique d'investissement avec le fonds PSIM, donc France 2030, et puis Seventure avec le fonds Blue Forward, qui est un fonds à impact, donc qui valide notre projet vraiment à impact positif pour la France. Et donc avec cet argent, et ben ça va nous permettre de préparer la prochaine étape de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait l'équivalent d'une tonne sec de produits. C'est ridicule, hein, le besoin rien que pour les éclosiers aquacoles, c'est 2500 tonnes. Donc ça va nous permettre déjà de faire un x10, 10 tonnes, et de poursuivre le déploiement.
Et le déploiement, ça passe par des effectifs. Vous êtes à combien de salariés à l'heure actuelle? Je crois que vous allez augmenter, mais vous avez, comme beaucoup d'entreprises, des difficultés de recrutement.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on est 14 aujourd'hui, mais déjà, on a fait un bond de 50% en 3 mois, puisqu'on était 8 l'année dernière. Je cherche encore 6 personnes à recruter cette année. Donc si vous êtes ingénieur de développement industriel, si vous avez envie de devenir mon bras droit, eh bien écoutez, n'hésitez pas à postuler. Et c'est 20 personnes cette année. On sera 40 dans peu de temps. Donc en fait, c'est un déploiement exponentiel puisque l'entreprise va fortement croître dans les années à venir. Oui.
Et vous voulez rester dans la région de Nice ou est-ce qu'on peut imaginer un site de production de microalgues dans d'autres régions de France?
Alors en fait, c'est tout l'atout de notre développement industriel, c'est qu'en fait, on développe de manière à pouvoir s'implanter n'importe où très facilement, en fait, donc pour justement favoriser le local. Donc en effet, si d'autres régions demain veulent nous accueillir, on y réfléchira. On ne va pas quand même délaisser la région de Nice, mais en effet, on réfléchira à tout ça. On va dire que Nice sera notre flagship et notre vitrine, c'est sûr. Et c'est de là qu'on produira pour les régions sud.
Un mot encore de votre actualité il y a quelques mois, c'est l'index French Blue Tech qui a été créé à la fin 2023 avec les 35 startups les plus prometteuses du secteur maritime pour faire large. Vous en faites partie, un peu sur le même modèle que le Next 40 de la French Tech. Elle vous sert à quoi cette labellisation? C'est important aussi dans votre processus de croissance?
Je pense que c'est important et puis déjà ça reconnaît une chose, c'est que on le sait, toutes les startups qui sont soutenues sont majoritairement en région parisienne. Or, les startups qui travaillent sur l'océan, eh ben, elles sont au bord de l'océan,
par
forcément. Et que la France est une terre d'océan aussi qui a énormément de potentiel dans ce domaine. Nous sommes à l'avant-garde. Et puis, on y retrouve beaucoup de nos partenaires d'ailleurs. Hein, Bioceanor, je crois que vous avez peut-être accueilli déjà ici. Beaucoup des gens avec qui on travaille, qui sont des gens qui sont aussi dans ce domaine-là. Donc oui, c'est important. Il faut qu'on soit reconnu. Il faut qu'on soit visible. Il faut qu'on reconnaisse que la France a une innovation forte et qu'on en parle. Je pense que c'est important. Et de manière aussi à ce qu'on soit soutenu en France et que l'innovation française reste en France avant de se développer.
Eh bien, à notre échelle, ce sont les messages que l'on aime entendre et on est là pour porter ces messages. Merci beaucoup Véronique Raoul, présidente d'INALP, d'avoir été l'invitée de La France à tout pour réussir. On va terminer cette émission avec, comme on le fait souvent, un coup de projecteur et si possible aussi un coup de main à la filière française de l'habillement. Bonjour Philippe Zorzetto.
Bonjour.
Vous menez depuis quelques années, on le sait, le combat du fabriqué en France dans le domaine de la chaussure, des chaussures que vous distribuez sous votre propre marque créée en 2009. Aujourd'hui, pour bien situer votre entreprise, c'est un chiffre d'affaires de combien? Combien de boutiques? Combien de parts de vente en ligne pour les chaussures Philippe Zorzetto?
Alors, c'est un nouveau modèle économique parce que moi, j'ai commencé il y a 15 ans et d'ailleurs, je fête mes 15 ans
aujourd'hui même.
Donc,
bon anniversaire.
Donc, la marque, elle a été créée il y a 15 ans, une époque où effectivement Internet n'existait pas ou pratiquement pas. Aujourd'hui, Internet, c'est 70% de mon chiffre d'affaires avec une volonté aussi de développer donc, cette expertise en France, produire en France et vendre à l'international.
Une boutique, je le disais, dans le Marais, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont envisagés, ou des corners peut-être éventuellement?
On a toujours notre boutique dans le Marais, qui est notre flagship au 106 rue Vieille du Temple, dans le haut du Marais. Effectivement, on est en train de travailler avec des partenaires, notamment les grands magasins, pour développer des corners. Et aussi, on est en train de travailler sur un nouveau site web qui soit plus accessible pour la clientèle internationale.
Votre collection, je crois que c'est la 32e, donc vous avez 15 ans, 32 collections, ça veut dire légèrement plus d'ailleurs que deux par an, c'est quand même pas mal. Votre gamme, on peut rappeler votre gamme, donc homme-femme, avec des derbies, des Richelieu, des mocassins, bottines, vous avez vraiment toute la gamme des chaussures, à peu près.
L'idée, dès le départ, ça a été d'utiliser les meilleurs savoir-faire en France, et quand il n'y en a plus en France, en Italie.
La répartition
50-50 aujourd'hui.
50-50, 50 fait en Italie, 50 fait en France.
Absolument.
C'est vos origines italiennes. Un grand-père dans la région de Venise, je crois.
Qui était italien, qui travaillait dans les ateliers en Italie. Et l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de proposer les meilleurs savoir-faire et les meilleures qualités durables à mes clients. Parce que la chaussure, c'est un objet de désir, de plaisir, et ça doit le rester.
Alors, vous avez des ateliers dans plusieurs endroits de France. On va avoir une carte. Vous travaillez avec des ateliers dans le Maine-et-Loire, notamment à Montjean-sur-Loire, où sont fabriqués vos sneakers, dont on avait parlé dans une précédente émission. Il y a aussi, vous faites travailler des ateliers à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, et aussi à Espelette et à Mauléon-Lichard. C'est important, voilà, de préserver ce savoir-faire via les commandes que vous leur faites.
Ils ont besoin de moi, ils ont besoin de nous, parce que ce sont des ateliers souvent familiaux. Par exemple, l'atelier avec lequel je travaille dans le Pays Basque, c'est un atelier familial depuis 4 générations. Donc, c'est aussi des rencontres humaines à chaque fois. Ce sont des gens, en fait, on crée des liens très très puissants, très forts, et on travaille ensemble, on essaye de créer des synergies intelligentes, des nouveaux modèles économiques pour développer le business.
Mais vous dites que le Made in France a un prix. C'est vrai que quand on va sur votre site ou dans votre magasin, on voit le prix des chaussures est évidemment un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé que dans d'autres circuits de distribution. Mais vous êtes clair, le Made in France, la qualité, ça se paye, ça a un prix.
Alors, le Made in France a un prix, mais je dirais ne pas produire en France a un prix aussi, du point de vue social, territorial et économique. En réalité, le positionnement de ma marque est un positionnement premium, un access premium. Donc, on est très en dessous des prix du luxe. Et effectivement, l'idée, c'est quoi? C'est de proposer des beaux souliers qui vont durer des années. Donc, qui pour moi sont extrêmement durables et écologiques.
Alors on le sait, donc on vient de le dire, ça a un prix, mais pour abaisser le prix de vente, il faut passer souvent par le coût de production. Et vous dites, moi il me faut des volumes, il me faut une masse de commandes pour que je puisse vendre un petit peu moins cher. Et c'est ce que vous faites via ces précommandes. On vous avait reçu, c'était aux alentours de Toussaint 2023 sur des précommandes de sneakers. Vous renouvelez cette opération, on en parle dans un instant. D'abord le bilan des précommandes de sneakers. Vous vous étiez fixé, je crois, 1500 paires de précommandes. Est-ce que vous avez atteint l'objectif?
On a atteint l'objectif. L'objectif des précommandes, c'est quoi? C'est du volume pour faire des économies d'échelle et de faire bénéficier aux gens qui précommandent un prix préférentiel. En général, on est à 20-30% de remise.
Donc là, vous faites la même chose avec les sandales et les espadrilles. Parlez-nous de cette opération que vous avez lancée il y a quelques semaines déjà et que vous relancez parce que l'objectif initial n'avait pas été atteint. C'était quoi votre objectif initial?
Alors, on était sur un objectif de 1000 paires. Effectivement, on a lancé les sandales et les espadrilles. C'était encore la fin de l'hiver, donc on n'avait peut-être pas trop envie de commander des espadrilles ou des sandales.
Il fait beau ce week-end.
Ce week-end, absolument. L'idée, c'est donc de recommencer, de continuer, d'arriver à ces 1000 produits vendus en précommande, on va y arriver. Pourquoi aussi l'espadrille, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis un enfant du sud de la France.
De Perpignan, toujours... c'est ça?
Ouais, de Carcassonne, c'est pas
de
très loin.
De Carcassonne, pardon. Voilà. Du Roussillon, voilà.
Absolument. Et du coup, on portait des espadrilles, enfants, mes parents. Moi, je passais mes vacances dans le Pays Basque. Et donc, il y a quelque chose de très affectif. Et en fait, aujourd'hui, 98% des espadrilles ou même des souliers que l'on porte ne sont plus produit en France. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer ce savoir-faire artisanal français, parce que l'espadrille, il y a quoi de plus emblématique qu'une paire d'espadrilles pour la France? Or, Et d'ailleurs, c'est connu bien au-delà des Pyrénées. Or, la majorité des ateliers ne sont plus en France. Donc, j'ai trouvé cet atelier. J'ai mis du temps pour le trouver parce que c'est pas facile de trouver des ateliers.
À Mauléon-Lichard.
À Mauléon, absolument. Voilà. À côté de Biarritz. Et voilà, on a travaillé sur des super savoir-faire et elles sont incroyables.
Alors, on enregistre cette émission le vendredi 12 avril. Vous en êtes où de, vous, on est toujours aux alentours de 500 sur votre objectif 2000. Et quel est le prix que vous proposez?
Alors, c'est le premier jour du round 2 pour la précommande. Donc, n'hésitez pas sur mon site philippezorzetto.com. Aujourd'hui, on est à donc 500 paires précommandées. Il nous en reste 500 pour atteindre notre objectif. Le prix, c'est 145 euros au lieu de 180 euros. En sachant que toutes les espadrilles sont faites à la main, en cuir, avec un procédé artisanal qu'on appelle la vulcanisation, qui permet en fait, non pas de coller les semelles, mais de les fondre. Donc, en gros, vos espadrilles, vous les gardez toute la vie.
Et donc, ça reste à 145 euros parce que vous l'avez dit, il y a tout un process de fabrication. Vous me disiez, je crois, il faut un jour à travers les différentes étapes pour faire une paire d'espadrilles made in France.
Absolument, une journée avec une personne qui va coudre à la main. C'est vraiment un travail extraordinaire pour avoir une paire. Oui.
Un mot, il nous reste 30 secondes. Donc, vous fêtez vos 15 ans aujourd'hui même. Merci d'être venu les fêter sur ce plateau. Il y a des événements, il y a des surprises dans les prochaines semaines ou les prochains jours.
Oui, absolument, il y a des surprises. En fait, j'ai envie de faire gagner à mes clients et on va, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez en savoir un petit peu plus, faire gagner à mes clients des paires sur mesure et les amener avec moi dans les ateliers un peu partout en France.
Voilà, donc sur le site philippezorzetto.com, merci beaucoup Philippe d'être venu dans votre boutique à Paris. On suivra l'évolution de cette précommande des espadrilles made in France. La France a tout pour réussir est diffusée en télé, en radio et sur tous nos supports digitaux. La semaine prochaine, un sommaire toujours aussi divers et varié. Nous parlerons notamment d'une entreprise de cordistes, Jarnias, mais aussi d'une chaîne de poké. Et je recevrai également Elisabeth Ducoté, la présidente des équipements et matériels médicaux Tuan à Saint-Étienne. À la semaine prochaine, donc très bonne journée, très bon week-end, peut-être même très bonnes vacances. Et à bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.
BFM Business, à Nice, 104.
BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho.
Restez bien avec nous sur BFM Business. Tout de suite, je vous propose de découvrir le programme court, le Grand Est à tout pour réussir.
BFM Business partenaire.
Le Grand Est à tout pour réussir avec la région Grand Est.
Le Grand Est a tout pour réussir sur BFM Business.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.